Le coin lecture. Présenté par Emmanuel Dufour.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro du coin lecture, l'émission de Radio Libre en Périgord dédiée à la lecture de textes d'auteurs locaux et contemporains. Aujourd'hui, nous allons découvrir deux textes de Roland de Mulle. Roland de Mulle est un auteur autodidacte. Né à Lille en 1950, il a fait son service militaire dans la Marine nationale, ce qui lui a donné l'occasion de parcourir la moitié du tour du monde. Plus tard, il s'est installé comme artisan charpentier couvreur dans le Lot-et-Garonne. Les textes que je vais vous lire aujourd'hui sont intitulés « Le manuscrit » et « Vagabondage ». Le premier texte s'inscrit parfaitement dans l'actualité. Un soleil timide émergeait des nappes de brume qui s'effilochaient lentement par-dessus la Seine. L'air était doux en ce début de printemps. Guillaume, aspirant charpentier, avait pris la route de Paris à l'aube pour avaler les derniers kilomètres qui le séparaient de la Cayenne ou maison des compagnons de la rue Mouffetard. Il comptait se présenter en début d'après-midi à celui qui en assurait la direction et à la mère, seule présence féminine acceptée par les hommes rassemblés en ces lieux. Avant son départ d'Auxerre, il avait reçu le mot de la semaine, sans lequel il ne pouvait pénétrer dans les locaux. Il savait aussi qu'il serait accueilli par l'ensemble des membres de la communauté. Naturellement, les personnes réunies pour cette occasion respecteraient tous les gestes rituels, les signes et les mots pour cette cérémonie. Pour un observateur non initié, ce cérémonial évoquait forcément des pratiques occultes. Paris, mai 1858. Pour Guillaume, Paris était la dernière étape de son tour de France. Ce périple lui avait permis de maîtriser totalement l'art du trait. Aujourd'hui, il était capable de tracer n'importe quelle charpente et de justifier par ses calculs les sections de bois utilisées. Il pouvait mettre en ligne sur épure des pièces de bois qui n'étaient pas toujours équarries. Les angles des coupes étaient relevés à la sauterelle, l'autre nom de la fausse équerre. Grâce aux expériences réalisées pendant plus de 8 années de chantier dans toute la France, il était également en mesure d'assurer la mise en œuvre de charpentes, de la plus simple à la plus complexe, grâce aux marquages spécifiques. Ces signes, réalisés à la rainette, un petit outil à gorge, étaient connus de toutes les coteries ou ouvriers charpentiers de France depuis des siècles. Cette écriture de style cunéiforme était placée à la base de toutes les pièces de bois. Celle placée à droite de l'axe de la charpente portait une contremarque. Ces signes permettaient d'assurer la continuité des mises en œuvre par n'importe quel compagnon, même après le décès de son concepteur. Les épures, sur lesquelles il était interdit de marcher, étaient éphémères. Elles étaient souvent réalisées à l'échelle 1/10, par manque de place, avec une poudre calcaire appelée blanc de Meudon. D'ailleurs, Guillaume avait promis d'en ramener 2 ou 3 kilogrammes qui seraient partagés entre les membres de la Cayenne de Bordeaux, d'où il était parti. La marche à pied, sur une distance d'environ 170 à 200 km entre 2 villes d'étape, favorisait la réflexion des aspirants. C'était également une période importante pour Guillaume, une phase existentielle qui lui permettait de se remettre en question. Il aimait ces occasions durant lesquelles il se remémorait les conseils donnés par les anciens lors d'assemblées tenues régulièrement dans les Cayennes. Cet état d'esprit était fondamental pour tous. Tout travail réalisé par les compagnons représentait une œuvre commune, nécessitant de nombreuses mises au point. C'était l'un des principes de la règle, respecté par tous. Ces dispositions allaient de pair avec la politesse et le respect d'autrui. Malgré les différends fréquents, les aspirants et les compagnons faisaient preuve d'une belle écoute réciproque. Ces moments de marche permettaient à Guillaume de conforter sa motivation pour la réalisation de futurs ouvrages qui s'élanceraient vers le ciel. Chaque soir dans la Cayenne, les ouvriers charpentiers avaient la possibilité d'étudier la géométrie appliquée aux traits ou de finaliser le chef-d'œuvre qui permettrait de devenir compagnon après la cérémonie de réception. Guillaume préparait le sien depuis plusieurs mois. Il travaillait sur ses dessins avec assiduité. Il allait enfin pouvoir les concrétiser. Bientôt, Guillaume deviendrait Guillaume, la fierté de Bordeaux. Il pourrait alors arborer fièrement ses insignes de reconnaissance, les rubans de couleur et la canne, sur laquelle serait gravé son nom compagnonique, la date de réception et le blason de Bordeaux, sa ville d'origine. En avançant dans la capitale, le doux bruissement de la nature avait cédé peu à peu la place à la rumeur grandissante de la ville. Les odeurs spécifiques, les effluves en provenance de certaines boutiques remplaçaient les fragrances qui embaumaient les chemins parcourus dans la campagne autour de la cité. Voilà ce qui allait être son univers pour quelque temps. Plus loin, la cathédrale Notre-Dame s'offrit à sa vue. Il était arrivé. Guillaume rencontra dès le lendemain, très tôt, le rouleur qui avait négocié une place pour lui chez un certain Bellu, entrepreneur de charpenterie. Celui-ci était chargé par l'architecte Viollet-le-Duc d'ériger une flèche de 96 mètres de haut, par-dessus la nef et le transept de la cathédrale. Guillaume allait travailler à cette réalisation avec un compagnon célèbre, appelé Georges Angevin, l'enfant du génie. Ce charpentier s'était déjà distingué en réalisant la taille et la mise en place de la flèche de la Sainte-Chapelle. C'était l'homme de la situation. Guillaume était fier de partager cette tâche avec lui. Il voulait s'en montrer digne. Il était sûr d'enrichir considérablement ses connaissances grâce à Georges. Guillaume savait écrire. C'était un atout considérable en 1858. Il devait cet avantage à ses parents, négociants en vin. Ceux-ci avaient encouragé leur enfant à poursuivre des études au collège de Guyenne à Bordeaux. Ils auraient préféré que leur fils unique devienne un habile courtier en vin plutôt qu'il souscrive à cette folie qui consistait à apprendre un métier manuel à risque. Mais leur héritier avait préféré le travail au grand air plutôt que celui qui l'obligerait à vivre dans l'obscurité des chais du quai des Chartrons à Bordeaux, au milieu des barriques et des bouteilles. Guillaume possédait ses propres cahiers de notes sur lesquels étaient indiquées les différentes techniques utilisées dans les régions où il avait séjourné. Toutes les notes étaient illustrées de croquis précis, ce qui facilitait la lecture. La construction et la mise en place de la flèche de Notre-Dame n'échappaient pas à ce qui était devenu une tradition chez l'aspirant. De plus, Guillaume avait mis en place pour la réalisation de cette opération plusieurs techniques rendant l'exécution de la tâche beaucoup moins périlleuse, surtout à la hauteur où il travaillait. L'une des méthodes permettait la réalisation de pièces de charpente de grande longueur à assembler sur place. De l'avis de Georges, l'aspirant méritait largement de devenir compagnon. Il lui avait promis solennellement d'être à ses côtés le jour de sa réception. Guillaume avait rédigé un manuscrit commémoratif qu'il avait placé en lieu sûr dans un boîtier en broussin de bruyère. L'intérieur de ce boîtier était enduit de poudre de gypse mélangée à de la crocidolite pour le rendre ininflammable. C'était sans doute une prémonition. Il était fixé sur la troisième en rayure de la flèche, ensemble des pièces de charpente horizontale situées à la base d'arêtiers rayonnants autour d'un poinçon placé dans l'axe. Seul un charpentier confirmé pouvait y avoir accès. Paris, 15 avril 2019. Dans la soirée, un incendie ravage la toiture et la flèche de Notre-Dame, provoquant des dégâts considérables. Le peuple de France ressent alors une immense tristesse en regardant les images diffusées par les journaux télévisés. Le manuscrit de Guillaume n'a pas été retrouvé dans les décombres. Ce que le feu n'a pas détruit, des milliers de litres d'eau utilisés pour circonscrire l'incendie ont tout lessivé. Récupérer quelque chose dont on ignore l'existence est une démarche totalement hasardeuse. Mais d'autres compagnons sont déjà prêts, aujourd'hui, à recommencer la même tâche, avec obstination. Le compagnonnage ne sera jamais un conservatoire de vieux métiers, ni un musée de pratiques folkloriques. Jamais. Le deuxième texte de Roland de Mule que je vais vous lire s'intitule « Vagabondage ». Il est extrait du recueil « Pris dans ma toile ». Voilà le printemps. C'est la saison où tout recommence, où tout renaît, dans un foisonnement d'effluves qui flatte les odorats. Ce matin, Béatrice m'a proposé de l'accompagner en ville. Comme toujours, j'ai accueilli cette invitation avec une indicible joie. Cette suggestion m'a même procuré une certaine excitation que j'ai eu bien du mal à dissimuler. Car, d'aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai toujours adoré aller me balader avec elle, à la campagne comme à la ville. Il y a toujours d'agréables surprises au cours de nos promenades. En prime, nous sommes samedi, et dans cette petite ville de Dordogne, prise en tenaille dans la forêt de la Double, c'est le jour du marché, alors. Comme à chaque fois, les commerçants auront pris possession de la place de la République dès l'aurore. Plus tard, manœuvrer avec un véhicule utilitaire dans le marché sans faire d'accrochage relève du miracle. La sonnerie du téléphone portable retentit brusquement dans le sac de Béatrice. Aïe, c'est dommage, car nous étions sur le point de franchir le petit portillon du jardin. Je la connais bien, ma Béatrice. C'est la reine du forfait illimité. Si le dialogue commence par « T'es où, là ?» Je sais par expérience que la conversation sera longue. Je tente aussitôt de lui expliquer par tout un tas de signes très spécifiques que je n'ai pas envie d'attendre. J'espère qu'elle m'aura compris. Le portail entrebâillé constitue une bonne aubaine. Je n'ai pas envie de me retarder davantage. Je suis impatient. Aller au marché seul constitue aussi une aventure palpitante. Je sais qu'elle sera tout à fait capable de m'y retrouver. Les aménagements piétonniers de la rue principale, qui passe sous nos fenêtres, sont enfin terminés. Il aura fallu faire preuve de plus d'un an de patience et accepter de vivre au moins 6 mois durant cette période dans les mêmes conditions, ou presque, que les poilus de la Grande Guerre au chemin des Dames. Un vrai cauchemar pour certains riverains. Ici aussi, nous avions nos tranchées, les blindages, les gros tas de déblés, les sacs de matériaux et surtout la gadoue. Une boue bien collante qui adhère à tout. Combien de fois Béa m'a remonté les bretelles pour être rentré à la maison après avoir traversé des zones bien bourbeuses, interdites, entourées de barrières en plastique blanches et rouges. C'est tout moi, ça. J'adore ne pas respecter les consignes. J'aime faire tout ce qui n'est pas autorisé. Pourquoi contourner les obstacles alors que je sais parfaitement où est le plus court chemin d'un point à un autre ? Surtout lorsque les barrières ne sont pas liaisonnées. Cela me permet de me faufiler. Heureusement, les travaux casse-tête en format puzzle panoramique sont enfin terminés. Heureusement, les travaux casse-tête en format puzzle panoramique sont enfin terminés depuis presque un mois. Attendre patiemment en valait la chandelle. Maintenant, il n'y a presque plus de risque de faire évoluer négativement le taux des accidents de circulation sur notre grande route. Les riverains sont contents. Ce matin, je me surprends encore à sourire bêtement quand je vois les automobiles sauter comme des grenouilles sur le dos des ralentisseurs. C'est très drôle, mais c'est surtout très efficace. Aujourd'hui, il est agréable de pouvoir enfin traverser cette rue, presque comme bon nous semble. Dans cette petite ville de province, tout le monde se connaît. J'aperçois là-bas la maman de la petite Priscilla en grande discussion avec celle de Grégoire. Ce sont nos voisines. Je peux m'approcher d'elles assez près et faire preuve d'indiscrétion en écoutant le sujet de leur bavardage. Elles sont allées conduire leurs enfants respectifs à l'école primaire. Elles me regardent et sont surprises de me voir passer là sans Béatrice. Je n'ai pas trop envie d'écouter leurs remarques à ce propos. « Tiens, Monsieur Gérard, un retraité du bâtiment et des travaux publics qui habite la maison en face de la mienne, n'a toujours pas ouvert ses volets. » « Ah oui, c'est normal. Hier, je l'ai entendu rentrer tard. » Un jour, il a expliqué à Béa que chaque vendredi soir, il jouait à la belote avec ses amis. Pour cet homme affable, les parties de belote sont un rituel. Il dort sans doute encore. Gérard, au moins, sait profiter de sa retraite. À présent, je traverse le petit parc situé non loin de chez nous. Je suis content de voir que les grands platanes ont été protégés et préservés pendant les travaux. Ceux-là ne sont pas encore malades, comme le sont ceux qui sont plantés le long du canal du Midi, vers la ville de Trèbes, où habite une amie de Béatrice. Nous y allons régulièrement en vacances. Ce qui me plaît, c'est de constater que l'architecte paysagiste responsable du projet a réussi à intégrer dans un endroit discret le petit coin pour les chiens. Si les toutous s'y rendent pour y déposer leur déjection, la motocrotte achetée par la mairie pour le nettoyage des trottoirs va pouvoir rejoindre le musée Auto-Moto-Vélo de Châtellerault dans la Vienne. Au milieu de la pelouse de ce square se tient une conférence organisée par les Étourneaux. Ils sont occupés à écouter les directives de leur nouveau représentant local. Le discours de ce haut responsable traite de l'organisation du futur pillage des cerisiers de la commune, prévu avant la fin du printemps 2022. Certains passereaux n'écoutent pas les consignes. Ils sont trop occupés à becqueter les petits insectes qui sont légion en cette saison dans l'herbe odorante. En les voyant, il me prend une envie folle de jouer le trouble-fête, comme je le faisais en étant plus jeune, pour avoir le plaisir de les voir s'envoler. Je fonce alors au milieu de l'attroupement. Tout ce petit monde décolle aussitôt. Après quelques passages en vol tourbillonnant, cette nuée d'oiseaux va se poser sur les branches des grands arbres. J'approche du marché. Béatrice ne m'a toujours pas rejoint. À mon arrivée, je suis attiré par les effluves alléchants des poulets qui cuisent à la broche. Impossible de résister aux doux fumées qui s'échappent de la rôtissoire ambulante. Une jeune Parisienne, espiègle, au doux prénom de Zazie, attirée elle aussi par l'odeur des volailles, vient de me rejoindre. N'en déplaise à Béa, j'ai toujours eu envie d'avoir une aventure avec elle. Faut dire qu'elle est toute frétillante, qu'elle a du chien, elle est soignée et tirée à quatre épingles. J'aime sentir son odeur intime qui lui confère force et mystère. Depuis plusieurs jours, elle m'attire irrésistiblement. Ma romance, qui pouvait enfin débuter aujourd'hui avec Zazie, est momentanément interrompue par Béatrice, arrivée en courant. Elle est très énervée. Elle m'aboie dans les oreilles. « Qu'ai-je fait au bon Dieu pour avoir un chien qui se sauve à la première occasion et ne m'écoute pas quand je l'appelle ?» Oh, quelle vie de chien! Vous avez donc pu entendre le manuscrit, nouvelle encore inédite, ainsi que Vagabondage, extraite du recueil Pris dans ma toile. Ces recueils, ainsi que d'autres comme Atelier d'écriture, Le petit bois derrière chez moi, ainsi que Aphorismes et Détroit, sont auto-édités par Roland Demulle dans sa maison d'édition Atelier des Farguettes. Vous pouvez vous procurer ses écrits en le contactant par téléphone au 06 15 45 03 18, par mail à l'adresse rolanddesfarguettes@orange.fr ou via son compte Facebook Atelier des Farguettes. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que Le Coin Lecture est aussi votre émission. Si vous êtes vous-même auteur de textes que vous souhaiteriez entendre lire à cette antenne ou si vous avez des recommandations d'auteurs locaux et contemporains à me faire connaître, vous pouvez contacter RLP à l'adresse mail suivante Radio Libres en Périgord, donc libre au pluriel, @gmail.com, donc ça c'est tout attaché, radio au pluriel, libre au pluriel en Périgord, @gmail.com ou au téléphone 05 53 46 80 24 où vous pourrez laisser votre message sur le répondeur. Merci et à la prochaine fois.
Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. Vous avez pas vu Mirza? Oh la 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 la. Vous avez pas vu Mirza? Oh la 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 la. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Je le vois, veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Sale bête, va. Veux-tu venir ici? Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. passer ce chien. Oh, ça y est, je le vois, c'est bien la dernière fois que je te cherche comme ça. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Veux-tu venir ici? Oh, yeah. Et ne bouge pas. Veux-tu venir ici? Oh, yeah. Satané Mirza.